100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Ici, die junge Kaiserin. Der neue Farbfilm von Ernst Marischka mit Romy Schneider als Elisabeth von Österreich.
Bonjour, elle en a fait rêver plus d'un, plus d'une, la série des Sissi. Une saga historique qui révélera Romy Schneider et qui raconte de façon romancée et très sucrée la vie de l'impératrice Elisabeth, l'impératrice qui fascine toujours, 120 ans après sa mort, dans le nord de l'Italie, dans une région qui appartenait autrefois à l'empire des Habsbourg autrichiens. La petite ville thermale de Merano a fondé sa notoriété sur Sissi, qui aimait venir s'y reposer. Céline Béal s'y est rendue. Elle a rencontré Sissi, ou presque.
Les jardins du château Trautmannsdorf sont une attraction à Merano. On vient y admirer des plantes d'une grande diversité dans un cadre enchanteur. Et en cet après-midi d'automne, les visiteurs profitent d'une surprise supplémentaire. Au bord de l'étang aux Nymphéas, ils sont attendus par Sissi l'impératrice. Il s'agit bien sûr d'une imitatrice, mais avec sa robe jaune à crinoline et sa longue chevelure, tout le monde la reconnaît immédiatement. Et beaucoup se précipitent pour se faire prendre en photo à ses côtés. Sissi est une attraction à Merano.
Ici à Merano, nous avons fait la tournée Sissi. Nous sommes allés au café Sissi. Nous avons pris le chemin de Sissi. Et puis nous sommes encore venus ici.
L'Allemande Simone Elsbau se décrit comme une fan de Sissi. Enthousiasme partagé par ses deux filles, Mia et Lisa, l'aînée qui a 9 ans.
Elle est belle, parce qu'elle a de belles robes.
Les petites filles ne sont pas les seules à poser avec Sissi l'imitatrice. Le Bavarois Gerhard, la cinquantaine, y est aussi passé, avec un grand sourire, sous l'œil bienveillant de sa femme, Christiane.
Eh bien, moi, je connais Sissi que par les films avec Romy Schneider. Ils étaient beaux à regarder, de jolies femmes et l'histoire, tout simplement, comme un conte de fées.
Cette impératrice qui est passée de l'histoire au mythe est incarnée aujourd'hui par l'Autrichienne Sabine Rosecker. Avec plus d'une trentaine de représentations de ce type par an, dans les nombreux châteaux de la famille Habsbourg, comme ici, ou dans des marchés de Noël, elle serait presque une professionnelle. Mais elle reste dans le civil, infirmière, spécialiste du cœur, évidemment. C'est lors d'un bal, une tradition aujourd'hui encore en Autriche, qu'on lui a demandé pour la première fois de se déguiser en Sissi. Et elle a continué depuis. En 5 ans, elle en a appris pas mal sur son modèle. Elle sait ainsi que tout dans sa vie n'était pas digne d'un conte de fées.
Les dames de la cour devaient toujours être belles, et puis elles ne pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient de leur vie. Il faut se rendre compte que l'impératrice ne pouvait même pas s'habiller ou se déshabiller elle-même. Et quand on ne peut jamais être seule, ce n'est peut-être pas aussi rigolo que ça en a l'air.
Sabine Rosecker le sait très bien. Elle s'est cousue une soixantaine de robes selon les techniques de l'époque, avec corset et pas de fermeture éclair. Résultat, pour se faufiler et puis élaborer son chignon, il lui faut 3 heures. Et 3 heures le soir pour se déshabiller, toujours avec l'aide de son associée Petra Schimbeck. Dans la journée, ce n'est pas mieux, elle peut à peine s'asseoir à cause de ses jupons. Alors pourquoi s'infliger tout ça ? L'infirmière se sent très privilégiée de pouvoir goûter au faste impérial.
On m'ouvre les portes en grand, me déroule le tapis rouge et j'ai le droit de m'asseoir dans des sièges d'époque. J'ai même pu m'agenouiller sur le prie-dieu de l'archiduc François Ferdinand. Cela témoigne d'une très grande estime de la part des propriétaires des châteaux et de la famille Habsbourg.
Il s'agit de se sentir un peu comme une princesse, même si le seul honneur qui va avec est celui de tirer la tombola du château. L'histoire impériale exerce une fascination, même si beaucoup d'Autrichiens, Sabine Rosecker en tête, savent très bien, à l'heure où leur pays fête le centenaire de sa première république, que tout n'était pas si rose sous l'Empire. Mais s'il y a un domaine où les détails de l'histoire importent peu, c'est bien dans l'industrie du tourisme. À Merano, Ruth Engel est pédagogue au Musée du tourisme, qui est justement situé dans le château Trautmannsdorf. Elle témoigne de l'importance de pouvoir capitaliser sur le passage d'une figure historique.
C'est clair que Sissi sert toujours à faire de la publicité. On essaye de l'exploiter au maximum. La journée Sissi, aujourd'hui, dans les jardins, en est un bon exemple. Tous ceux qui sont dans le tourisme utilisent le personnage de Sissi sur leur site internet. Par exemple, venez à Merano, partagez l'expérience de Sissi dans l'atmosphère impériale de Merano. C'est plus facile d'avoir du succès avec un personnage comme celui-là. Pour faire un parallèle, à Salzbourg, ils font ça avec Mozart. Ici, c'est Sissi.
Ce marketing lié à une célébrité, très présent à Merano mais que l'on retrouve dans toute l'Autriche, n'est cependant pas apparu avec Internet. Au contraire, Ruth Engel raconte qu'à l'époque, en 1870, le nombre de visiteurs dans sa petite ville a doublé dans les 20 années qui ont suivi le choix de Merano par la belle impératrice pour ses villégiatures. Une ironie quand on sait qu'elle venait y chercher l'isolement.
Le cinéma, la télévision donnent décidément des envies de voyage. En Scandinavie, depuis quelques années, on assiste à un renouveau de l'engouement pour les Vikings, des clubs, des festivals, le Viking à la côte. Alors Anne-Françoise Hiver est allée à sa rencontre.
Ils sont une quarantaine, des hommes et des femmes, surtout des hommes, la trentaine pour la plupart, à la ville ingénieurs, enseignants, artisans, tous en tenue de sport. La nuit est tombée depuis longtemps dans cette banlieue de Reykjavik. Le rendez-vous a été fixé dans un parking désert d'un centre commercial. Deux par deux, ils s'éparpillent, l'entraînement commence, les coups d'épée résonnent contre les boucliers, des armes qu'ils ont fabriquées eux-mêmes en s'inspirant de celles de leurs ancêtres. Le club des Vikings se retrouve une ou deux fois par semaine, il en existe ainsi plusieurs en Islande, mais celui de Reykjavik est le plus important, avec 200 actifs et toujours plus de candidats. Il faut dire que c'est du sérieux. Plusieurs de ses membres ont joué les figurants sur Game of Thrones, la série de HBO tournée en partie en Islande. La production voulait des professionnels, des acteurs qui savaient manier l'épée. Elle a été épatée par ces Vikings islandais. Eux-mêmes ne parlent que d'une chose, l'épée de Jon Snow, la vraie, manufacturée par un des meilleurs spécialistes du monde. Plus que les stars de la série, c'est elle qu'ils voulaient voir. Quand ils ne sont pas occupés à jouer les sauvageons ou les marcheurs blancs à l'écran, les Vikings islandais font la tournée des festivals l'été. Au programme tournois, reconstitution de scènes historiques, marchés et festivités en tout genre. Celui de Reykjavik a lieu fin juin. Les passionnés mettent ensuite le cap vers la Suède, le Danemark, la Norvège, jusqu'au Royaume-Uni. C'est que les Vikings ont désormais le vent en poupe. Depuis quelques années, ces gaillards du Nord, carrure solide et le cheveu long blond, ont envahi petit et grand écran, ainsi que les rayons des librairies. Même la musique viking connaît des succès internationaux. Surfant sur la vague, Stockholm a ouvert en avril 2017 un musée consacré à leur histoire, juste à côté du musée Abba sur l'île de Djurgården. Retour aux sources pour les Scandinaves en quête d'identité, les conservateurs du musée mettent en garde. Attention aux préjugés, le Viking était d'abord un paysan, loin souvent de l'image du guerrier voguant en drakkar par-dessus les mers, une image dont l'extrême droite raffole. En Suède, un réseau baptisé les Vikings contre le nazisme a d'ailleurs été créé pour protester contre le détournement de certains symboles de l'époque par la mouvance néo-nazie.
Et on fait escale à Grodno en Biélorussie. À présent, c'est à la frontière avec la Pologne et la Lituanie. C'est l'une des grandes villes du pays. Il y a plus de 300 000 habitants. C'est aussi une ville historique posée sur le fleuve Niemen. Elle s'ouvre au tourisme depuis la fin 2016. On peut s'y rendre pour plusieurs jours sans visa. Notre correspondante en Lituanie, Marielle Vituro, a récemment profité de l'occasion. Bonjour Marielle.
Bonjour Juliette.
Cette visite, on va la faire aussi en compagnie de Stepan Storeikas. Il est historien, originaire de Grodno. Il enseigne à Vilnius et vous l'avez rencontré pour parler de sa ville. Pour aller depuis Vilnius jusqu'à Grodno, on prend le bus, on met presque 4 heures, Marielle, avec un arrêt obligatoire à la frontière, un tampon dans le passeport. Et ensuite, elle ressemble à quoi cette grande ville biélorusse ?
Eh bien, Juliette, comme vous l'avez dit, Grodno est posé à quelques kilomètres de la frontière avec la Lituanie et la Pologne, entouré de forêts. Alors, la banlieue de la ville ressemble à n'importe quelle ville construite à l'époque soviétique, site industriel et grande barre d'habitation. Mais dès que l'on se rapproche du centre, eh bien, c'est une toute autre image qui apparaît. Grodno est une ville ancienne, fondée au XIIe siècle. Elle est traversée par un grand fleuve, le Niemen. Elle a toujours été à la croisée de routes commerciales. Une très vieille église en pierre construite au XIIe siècle sur les bords du fleuve est toujours debout. Elle est en cours de restauration, tout comme les deux châteaux qui surplombent le fleuve. Alors Stepan Storeyka est historien, il a grandi à Grodno et il se réjouit de cette ouverture au tourisme.
L'année dernière, Grodno était la destination préférée des Lituaniens pour les courts séjours. Ce qui les intéresse, ce ne sont pas tant les vestiges de l'époque soviétique que les traces de l'histoire du Grand-Duché, de la République formée entre la Lituanie et la Pologne, ou encore la période polonaise de la ville pendant l'entre-deux-guerres. Cet afflux de touristes a permis l'ouverture de nouveaux cafés et même de 5 petits hôtels. C'est certainement la meilleure idée que les autorités aient jamais eue.
Marielle, on peut désormais rester à Grodno pendant une durée qui peut aller jusqu'à 30 jours sans visa, mais on peut aussi se rendre dans d'autres villes, hein, comme Brest ou Minsk, si on y arrive en avion. En contrepartie, il faut avoir une assurance et acheter des entrées dans des musées ou des sites touristiques à l'avance.
Oui, et ce patrimoine historique à Grodno, Juliette, est quelque chose de très important. Des travaux importants de restauration sont en cours partout dans la ville. Dans le centre, on voit de nombreuses plaques qui indiquent comment la ville s'est transformée au fil des années. Et parfois, il suffit de marcher dans la ville et d'ouvrir ses yeux, comme Stepan Storeyka.
J'aime beaucoup marcher dans la rue piétonne, la rue des Soviets. La période soviétique se reflète dans les noms des rues. Et je cherche aussi des traces de la période polonaise. Les plaques d'égout datent presque toutes de cette époque.
Les habitants se mobilisent souvent pour sauvegarder ce patrimoine. Par exemple, le pavé de la rue des Soviets est toujours d'origine et il a été conservé grâce à la mobilisation des habitants de la ville. Et un quartier de maisons en bois de style constructiviste des années 30 a aussi été sauvé de la démolition. Cette histoire multiculturelle qui était aussi celle d'autres villes comme Vitebsk ou Brest est encore mal comprise à Minsk ou même dans l'est de la Biélorussie et parfois elle paraît un peu suspecte.
Alors moi, Marielle, quand j'imagine la Biélorussie, je vois un pays resté à l'époque soviétique. Est-ce qu'on peut voir des traces de ce passé dans la ville ?
Oui, tout à fait, Juliette. Il y a toujours un square Lénine, une rue Lénine et sa statue sur la place devant la mairie de Grodno. Alors, la mise en valeur de ce patrimoine soviétique a été un temps un argument dans le jeu politique avec Moscou pour bénéficier de ressources énergétiques à moindre coût. Aujourd'hui, la question devient moins d'actualité car un rapprochement trop important entre la Biélorussie et la Russie pourrait signifier une perte d'indépendance de la Biélorussie. Mais, Juliette, cet aspect soviétique du pays se voit aussi dans les magasins. Alors, on trouve de tout, certes, mais les produits locaux ont encore parfois un design très soviétique et ils coûtent bien moins cher. 500 grammes de flocons d'avoine locaux coûtent à peine 60 kopecks, soit 25 centimes d'euros.
Et pour Stepan Storeyka, la ville est en constante transformation.
La population de la ville augmente, 50 000 de plus ces 15 dernières années. Des quartiers nouveaux sont apparus, le secteur de la construction est en plein boom, tout comme aussi ici la scène culturelle. Nous sommes dans la dernière phase de l'urbanisation du pays. Grodno est prisée pour s'installer car elle se situe près de la frontière occidentale du pays.
Et Juliette, il n'y a pas que la ville à visiter, mais aussi la forêt autour, la forêt de Białowieża, une forêt primaire, et puis aussi le canal d'Augustów qui relie la ville de Grodno à la Pologne. Et l'été, on peut même passer la frontière en canoë.
Merci Marielle.
À bientôt Juliette.
Martin Scorsese, regista di Toro Scatenato e tanti altri film, è diventato italiano. Il suo atto di nascita è stato trascritto nel comune di Polizzi Generosa, vicino Palermo, dove sono nati i nonni.
Et on poursuit notre voyage, mais cette fois on passe de l'autre côté de la caméra, comme Martin Scorsese, le plus italien des réalisateurs américains. On lui doit Le Parrain. À 76 ans, il est désormais citoyen italien. Cécile Debarge, grâce aux efforts du maire d'un petit village de Sicile, Polizzi Generosa.
Martin Scorsese le répète à envie lors des festivals de cinéma italien ou à la presse. Il est américain, certes, mais il aime plus que tout l'Italie et en particulier la Sicile, d'où étaient originaires ses grands-parents. Dès 1979, il voyage sur l'île en compagnie de sa femme, Isabella Rossellini, afin de découvrir le village que son grand-père paternel avait quitté près d'un siècle plus tôt. Direction les Madoni, une région montagneuse de la province de Palerme où se niche le village de Polizzi Generosa et ses près de 3000 habitants. Le célèbre réalisateur américain se rend à la mairie et part à la recherche des membres de sa famille. « Où habite la famille Scorsese » demande-t-il. La réponse le décevra, personne de ce nom n'habite ici. Martin Scorsese repart, bredouille et intrigué. Le village correspond en tout point à celui que son père lui avait décrit, alors que s'est-il passé ? La réponse arrivera 39 ans plus tard. Entre-temps, Martin Scorsese avait renouvelé sa démarche via le consulat italien aux États-Unis et notamment pour obtenir un acte de naissance de ses grands-parents qui lui permettrait d'obtenir la nationalité italienne. Il faut attendre 2018 et l'actuel maire de Polizzi Generosa pour le happy end. Quand il entend parler de cette histoire, il fait le lien avec sa propre arrière-grand-mère du nom de Scorsese. Scorsese, Scorsese, deux toutes petites lettres de différence qui ont été transcrites de manière erronée par les autorités américaines lors de l'arrivée du grand-père aux États-Unis. Grâce au maire, Martin Scorsese a donc finalement obtenu le fameux certificat d'état civil et obtenu dans la foulée la nationalité italienne. Il est désormais chaleureusement invité à Polizzi Generosa.
Gardez vos yeux fermés et écoutez.
Bonjour Vincent Teval.
Bonjour Juliette.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'un groupe qui vient des Pays-Bas.
Uit, c'est un tout jeune groupe formé voilà 2 ans aux Pays-Bas par 5 étudiants en art, vite repérés par la presse et le public néerlandais pour leur pop très efficace au fil de singles et de concerts donnés dans tout le pays. Emmené par la chanteuse Megan De Klerk, le groupe publie cet automne son premier album, Fool for the Vibes. Et quand on lui demande quelle peut bien être la signification de ce nom, Uit, Megan De Klerk relève simplement que ça rime avec neut, neutre en hollandais, et que ça ne veut rien dire. À moins qu'il ne faille aller chercher du côté de l'acronyme EUT qui veut dire Equipment Under Test en anglais, un équipement en cours de test. Voilà une bonne définition pour un jeune groupe qui semble chercher sa voie en piochant dans ce que les années 90 ont produit de plus généreux, avec un versant bondissant et un autre plus doux. I said yes and I don't know how to forget it. They called David to confirm about how he got it. What's wrong with wanting to be gone for a second? Cause I'd be back like always, you'd be back, you and I. Just a sec, 'cause I'd always be back like always you and I. So we've come a long way to get up here, and the view is high and deep, there's no solid ground.
Les Néerlandais de Uit avec Vincent Teval sur RFI et Accent d'Europe. C'est terminé. Réalisation et mise en onde signée Françoise Grelot. Vous nous retrouvez sur internet rfi.fr. www.rtl.fr, onglet émission, ou bien sur les réseaux sociaux et bien évidemment sur l'antenne dès lundi.